La parole de Dieu, en commençant par quelques courts versets dans le livre des psaumes, au début du psaume 33e. Psaume 33, verset 1er. Exultez en l'Éternel, vos justes, vos hommes droits, ciel et louange. Célébrez l'Éternel avec la harpe, chantez ses louanges sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. Psaume 98, verset 5e. Chantez les louanges de l'Éternel avec la harpe et une voix de cantique. Nous lirons d'autres passages. Nous sommes frappés en constatant la place qu'occupe dans l'Écriture la louange, l'adoration. C'est bien pour que un peuple le serve dans le sens de cette louange et de cette adoration, lui offrant des sacrifices, qu'il l'a mis à part, Israël. Le livre des psaumes réserve une place particulière à l'adoration, et c'est bien sur un thème de louange que ce livre se termine. Parlant à la femme samaritaine, nous savons que le Seigneur a pu lui révéler ce désir du cœur divin, lui disant le Père cherche des adorateurs qu'il adore dans l'esprit et en vérité. Le Père cherche, car en effet, dans la pensée de Dieu, pour être un adorateur, il faut être introduit dans des relations filiales et vitales, être un enfant de Dieu, le connaître comme Père. Et c'est bien l'adoration qui constituera l'activité, comme nous chantons, du repos éternel du peuple de Dieu introduit dans la gloire. Les accents sans fin d'un cantique de louange. La harpe dans la parole exprime d'une manière bien évidente et touchante ce thème de la louange, instrument constitué par des cordes de différentes longueurs. Il traduit en effet ces sons variés, produits tant par de jeunes croyants que par des croyants plus avancés dans la compréhension des pensées de Dieu qui donne de son plus grave, mais tous ensemble constituant cette harmonie qui est une adoration collective. Dans l'ancienne économie, nous savons bien que les instructions divines faisaient appel à la confection d'éléments matériels. Le tabernacle est là pour le confirmer, combien nombreux sont les éléments matériels qui constituaient cette première réalisation de la maison de Dieu avec la maison de Dieu ou l'habitation de Dieu avec l'homme. Mais nous savons bien que dans l'économie actuelle, tout est spirituel. Et tout ce qui était matériel trouve sa réalisation spirituelle maintenant dans l'économie présente. Et nous sommes invités à offrir des sacrifices non plus matériels, mais des sacrifices spirituels. Mais il est frappant de voir que la harpe, qui est un instrument qui exprime d'une manière bien particulière la louange, parcourt la pensée de Dieu et nous la trouvons dans les Écritures, dans des circonstances les plus variées. Et nous pourrions, avec le secours du Seigneur, lire quelques passages dans des conditions très différentes, où nous trouvons la mention de la harpe. Notons a priori, selon la lecture de ces quelques versets des psaumes, que l'objet de la louange, c'est la personne divine. Le thème de l'adoration, c'est la personne divine, c'est sa grandeur, sa majesté, sa puissance, et pour nous maintenant, sa grâce, son amour. Le premier cantique chanté sur le rivage de la délivrance par le peuple Israël qui a franchi la mer Rouge à l'Éternel pour objet. Jah est ma force et mon cantique. Et ceci est de nature à parler à nos cœurs en rapport avec l'adoration collective qu'est le culte, nous conduisant à réaliser cette vérité combien précieuse, qui nous conduit aussi à nous élever au-dessus de ce qui nous concerne, pour parler à Dieu de l'immense richesse de sa grâce manifestée dans son Fils bien-aimé, et lui présenter, c'est bien là le thème le plus élevé du culte, que nous sommes appelés à rendre en esprit et en vérité, lui présenter l'excellence de celui qui de toute éternité fait ses plaisirs. Tournoyer en quelque sorte au jour de la victoire, le premier jour de la semaine, cette germe des prémices. Consumer sur l'autel de l'adoration le parfum du nom de Jésus. Exalter à sa gloire comme à celle de son Fils bien-aimé l'excellence de sa personne, l'infini de ses perfections, l'efficacité de son œuvre glorieuse et magnifique. Et nous voyons dans ces expressions que le thème de l'adoration, de l'adorateur, c'est donc principalement Dieu lui-même, Christ lui-même. N'est-il pas le mobile de notre louange? Revenant à l'instrument de la louange, l'harpe d'une manière bien particulière, nous pouvons constater que sa première mention se trouve tout au début de la Genèse. C'est dans le chapitre 4 de la Genèse qu'il est fait mention de l'activité qui a été celle des descendants de Caïn, au chapitre 4, où il nous est parlé de ces trois hommes, nous pouvons lire le passage. Et au chapitre 4 et au verset 20e de la Genèse, nous lisons « Adam enfanta Jabal, lui fut père de ceux qui habitent sous les tentes et ont du bétail, et le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de tous ceux qui manient l'art et la flûte, et Tsila, elle aussi, enfanta Tubal-Cain, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. » L'activité de l'homme sur la terre nous est déjà présentée par celle qui a été réalisée par ces trois descendants de Cain, où nous avons dans le premier Jabal, le domaine de l'agriculture, dans le second Jubal, le domaine des arts, qui fait précisément mention de l'art. Et dans le troisième de ses descendants, Tubal-Cain, forgeur des outils d'airain de fer, la branche de l'industrie. Il est frappant de voir que dès le début du monde organisé, mais organisé sans Dieu ici, nous avons ces trois grandes branches qui subsistent encore de nos jours. Mais ce que nous remarquons, c'est que les circonstances particulières dans lesquelles la harpe est mentionnée, et nous n'en en dirons que quelques-unes, puisqu'elles sont nombreuses. Premièrement, dans le premier livre des Chroniques, nous lisons quelques versets dans les chapitres 13 et 15. Chapitre 13 du premier livre des Chroniques. Et David eut un conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute la congrégation d'Israël, « Si cela est bon devant vous, et que cela vienne de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos autres frères qui restent dans tous les pays d'Israël, et en même temps vers les sacrificateurs et les lévites dans leurs villes et leurs banlieues, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous, et ramenons à nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne l'avons pas consulté au jour de Saül, et toute la congrégation dit qu'on fit ainsi. Et la chose était bonne aux yeux de tout le peuple. Et David assembla tout Israël depuis Sicor, d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David monta et tout Israël de Baala à Kiriath-Jéarim, qui appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel, qui siège entre les chérubins, duquel le nom est placé là. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et l'amenèrent à la maison d'Aminadab. Et Uzza et Akio conduisaient le chariot. Et la ville et tout Israël s'égayaient devant Dieu de toute leur force, avec des cantiques et des harpes, et des luttes, et des tambourins, et des cymbales, et des trompettes. Et ils arrivèrent à l'aire de Kidon, et Usac étendit sa main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient bronché. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Usa, et il le frappa parce qu'il avait étendu sa main sur l'arche, et il mourut devant Dieu. Alors David fut irrité, car l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Usa, et il appela ce lieu-là du nom de Pérès-Usa, qui lui est resté jusqu'à ce jour. Et David eut peur de Dieu en ce jour-là, et disant, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Et David ne retira pas l'arche chez lui dans la ville de David, mais il la fit détourner dans la maison d'Obed-Edom de Gittien. Et l'arche de Dieu demeura 3 mois avec la famille d'Obed-Edom dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Dans le chapitre 15e, au verset 25e, et David et les anciens d'Israël et les chefs de milliers allèrent pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel de la maison d'Obed-Edom avec joie. Et il arriva que quand Dieu aida les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils sacrifièrent 7 veaux et 7 béliers. Et David était vêtu d'une robe de byssus, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche. Et les chantres et Kelania, le chef de la musique des chantres, et David avait sur lui un éphod de pain. Et tout Israël faisait monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie. Et au son du cor, et avec des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir des luttes et des harpes. Et comme l'arche de l'alliance de l'Éternel arrivait à la ville de David, Michal, fils de Saül, regarda par la fenêtre, et elle vit le roi David sautant des joues, et le méprisa dans son cœur. David était élu roi. Le peuple est rassemblé, nous avons sur le verset 38 du chapitre 12. Tout Israël est là pour élire, établir d'un seul cœur, d'une même pensée, David comme roi. Ce roi, selon le cœur de l'Éternel, attaché à son Dieu et à sa maison, réalisant la perte subie par le peuple qui n'avait pas interrogé l'Éternel et avait été privé de l'arche, ressent ce désir combien heureux de ramener l'arche. C'est en effet ce qui devrait animer toujours le peuple de Dieu, d'avoir l'Éternel, le Seigneur, avec lui. Mais si d'une part il y a la réalité d'un désir heureux que Dieu ne peut qu'approuver, d'autre part il y a la responsabilité d'obéissance quant à la réalisation d'un tel désir. Et nous voyons dans ces deux passages des chapitres 13 et 15 ce double aspect. D'une part le désir selon Dieu, d'autre part la responsabilité d'une obéissance implicite aux ordonnances divines. Ce qui traduit cette pensée qu'il ne suffit pas d'être actif, ce qui compte, c'est d'être obéissant. Le chapitre 35 du livre de l'Exode traduit d'une manière parlante à nos cœurs ces deux pensées. Ce chapitre qui nous traduit l'activité du peuple préparant tout ce qui est nécessaire pour l'édification du tabernacle. Chacun apporte, et apporte selon le produit et les dispositions de son cœur. Chacun peut lire dans ce 35e chapitre de l'Exode la place qu'occupe le cœur. C'est l'activité du cœur, selon que le cœur y portait, selon que le cœur était disposé. Mais on n'apportait pas à l'Éternel pour la maison n'importe quoi. Tout ce qui devait être apporté et tout ce qui devait être fait devait être réalisé conformément aux instructions divines, ce qui conditionnait la présence de Dieu dans cette demeure. Et c'est bien parce que les choses ont été réalisées comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, expression que nous trouvons pas moins de 18 fois dans les 2 derniers chapitres de l'Exode, c'est en raison de cette obéissance totale que la nuit a pu remplir la maison et que l'Éternel a pu sceller sa réalisation de son approbation de sa bénédiction, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. L'activité, certes, c'est une chose bonne. L'obéissance est une chose excellente et elle est indispensable. Mais dans un monde tel que celui dans lequel nous sommes parvenus, où l'activité et l'activité religieuse occupent une place bien particulière, nous recherchons, désirons être actifs, et combien cela est heureux dans la pensée, soyons préoccupés d'une activité que le Seigneur peut approuver, scellée de son approbation, de telle manière que tout soit fait comme il nous l'a ordonné. Le peuple ici est réuni sous la conduite du roi David, et pour ramener donc tout le monde trouvant que cela est bon devant vous, de ramener l'arche, car en effet, ils en avaient été privés, nous connaissons les conditions du règne de Saül. L'arche est ramenée, le peuple est rassemblé, et nous voyons qu'il est disposé à ramener l'arche de l'Éternel en l'accompagnant de la louange, les harpes vibrent lorsque cette arche remonte. Chose bonne. Désir qui était selon la pensée de Dieu. Mais le désir n'a pas été accompagné d'une recherche scrupuleuse quant aux ordonnances qui avaient été données quant à la manière selon laquelle cette arche devait être transportée. Elle devait être portée. C'est pour cela que l'ordre divin, quant à sa construction, avait prescrit, comme pour l'autel, comme pour l'arche, comme pour la table, des anneaux et des barres. Elle devait être portée. Que fait-on? On construit un chariot et on l'amène sur un chariot neuf. L'acte était bon. Au verset 4, nous avons lu la chose était bonne aux yeux de tout le peuple. Mais ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel, c'était la manière selon laquelle on transportait cette arche. Il fallait donc la porter sur les épaules et ne pas la mettre sur un chariot. Le travail de la main de l'homme. Et nous avons lu quelles ont été les conséquences de cette désobéissance, cette absence de préoccupation quant à une conformité ou une conformation implicite à l'ordonnance divine. Il est admis que les deux branches, Usa apporte sa main pour soutenir cet acte. Nous pourrions également conclure, Usa était bien intentionné. Mais nous voyons en tout cela que les bonnes intentions ne sont pas nécessairement selon la pensée de Dieu. Il faut les soumettre à l'instruction divine. Usa porte sa main, et là, bien qu'il y eut des cantiques, bien qu'il y eut des harpes, il y a une brèche qui est faite parce qu'il y a eu un acte d'insoumission, un acte de désobéissance. Qu'en résulte-t-il? La joie de David est terminée, profondément assombrie. Au lieu d'un cœur réjoui par une telle circonstance, s'il lui était réalisé selon la pensée de Dieu, il est irrité. Il perd la joie. Il perd la présence de l'arche. Ayant peur de l'amener sous sa tente, il la détourne dans la maison de Ben-Hadad. Il va donc perdre la présence de ce qui avait le plus de prix pour son cœur. La joie est donc remplacée par l'irritation, et de plus, il y a une brèche dans le peuple. Nous pourrions dire, mais comment se fait-il? Lorsque les Philistins ont ramené l'arche à Beth-Shemesh, condition que nous avons au début du livre de Samuel, ils l'ont également mis sur un chariot, l'accompagnant même d'offrandes selon ce que les Philistins avaient jugé bon de réaliser. Il n'y a pas eu de brèche. Les Philistins n'étaient pas enseignés quant à la volonté divine. L'arche a été mise sur un chariot. Elle était ramenée au moment où les moissonneurs de Beth-Shemesh vont lever les yeux et la voir remonter et avec joie. Mais les Philistins n'ont pas subi de dommages, car ils ne sont pas responsables de se soumettre à la pensée de Dieu. Ils l'ignorent et les instructions ne leur ont pas été données. Contrairement à Israël et à David, d'une manière particulière, il était censé connaître ce que Dieu attendait de lui. En revanche, lorsque les habitants de Beth-Shemesh, d'une manière irréfléchie, pour ne pas dire audacieuse, se sont permis d'ouvrir l'arche pour regarder, nous savons ce qu'il en est résulté. Ce qui nous montre que dans tout acte, toute activité spirituelle, quelle qu'en soit la nature, il importe a priori de s'enquérir de la pensée de Dieu, de telle manière à s'en acquitter conformément à son ordonnance. Obéissance vaut mieux que sacrifice, a-t-il pu être dit à Saül. Nous pouvons être des enfants de Dieu, par la grâce de Dieu nous le sommes, mais ce qui importe aussi, c'est que nous soyons des enfants obéissants. Cette scène, on peut dire, est ternie, la joie est enlevée par les conséquences de ce manque de conformité à la pensée et à l'ordonnance divine. Le nom de Dieu réclame ses droits. Le Seigneur réclame ses droits. Et son nom était là, sur l'arche, entre les chérubins. Ces événements qui sont en quelque sorte des préservateurs des gloires divines et des droits de Dieu lui-même. Son nom est là. Et nous voyons que le nom divin, le nom du Seigneur, ne peut pas être associé à nos propres activités, à nos propres pensées. Le nom du Seigneur est un nom de la plus haute majesté et de la plus haute dignité. Et nous comprenons cette exhortation dans l'Épître à Timothée qu'il se retire de l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice, quiconque prononce le nom du Seigneur. Dans le chapitre 15, nous voyons une scène d'une part semblable, d'autre part totalement différente. Si la maison d'Obed-Edom a été bénie en raison de la présence de l'arche, en effet, où le Seigneur se trouve, la bénédiction est commandée. Nous avons pu voir que dans le cas de Joseph, la bénédiction et la prospérité étaient liées à la place qu'on accordait à Joseph. Il en est de même quant à la place et aux droits que l'on réservera au Seigneur. Que ce soit dans nos vies individuelles, dans celle de nos familles ou dans celle de l'assemblée. Dans ce chapitre 15e, David donc va faire monter l'arche de la maison d'Obed-Edom. Mais cette fois, il a compris. Il a réalisé l'erreur commise, il a subi des conséquences, et il va se conformer à ce que l'Éternel avait ordonné. Et cette fois-là, nous le voyons au verset 26, l'arche est portée. Dans cette scène où la sacrificature prend le pas sur la royauté, nous voyons même David adopter une position qui anticipe déjà celle du roi sacrificateur. Il est porteur de l'éphod de lin. Et nous le verrons accomplissant un acte qui sera confirmé et de manière plus évidente encore par son fils Salomon, celui qui est porteur de l'éphod, roi sacrificateur, type de Christ, qui est le roi sacrificateur par excellence bien sûr, remplit cet office de bénédiction bilatérale, bénissant Dieu de la part du peuple et bénissant le peuple de la part de Dieu. Accompagnant dans la foi et avec la harpe, toujours liée à la présence divine, car c'est en regard de la présence divine que la harpe fait retentir ses sons et vibre. Nous voyons maintenant cette scène se dérouler dans des conditions convenables à la pensée de Dieu. Et David va introduire l'arche cette fois au lieu qu'il a préparé pour elle. Mais ce que nous devons constater, c'est que l'obéissance attire nécessairement la haine et le mépris de son monde. Attitude qu'a adoptée Michal, sa femme, fille de Saül, qui va le mépriser dans son cœur. N'oublions pas que l'obéissance, l'humble soumission à la pensée de Dieu, qui met de côté tout ce qui est du travail et de l'organisation de l'homme, ce dont nous parle le charme neuf, cette simple obéissance à la parole de Dieu attirera sur ceux qui désirent s'y conformer le mépris de ce monde, voire même du monde religieux. Nous pourrions considérer deux ou trois scènes, seulement les évoquer sans nous y arrêter, où les harpes alors sont silencieuses. Dans le psaume 137, auprès du fleuve de Babylone, là nous nous sommes assis, et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au sol qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir de la joie. Chantez-vous un des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, et si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Dans le prophète Ésaïe, un verset, au chapitre 24, au verset 6 du chapitre 24, peut-être à partir du verset 4 déjà, le pays mène deuil et se fane. Le monde languit et se fane. Ils languissent, le peuple haut élevé du pays, et le pays est souillé sous ceux qui l'habitent. Car ils ont transgressé les lois, changé le statut, violé l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré le pays, et ceux qui l'habitent subissent la peine de leur culpabilité. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Le mou mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui étaient joyeux de cœur soupirent, la joie des tambourins a cessé, le bruit tumultueux de ceux qui se réjouissent a pris fin, la joie de l'art a cessé. Dans le prophète Ézéchiel, un verset semblable, au chapitre 26, le verset 13e, Ézéchiel 26. Et je ferai cesser le bruit de tes chansons, et le son de tes harpes ne sera plus entendu. C'est l'oracle de Tyr dans ces deux prophètes, d'Ésaïe et de Ézéchiel. Dans le psaume 137, nous avons une évocation de ce qu'était la condition d'Israël, ou plutôt des deux tribus de Juda et de Benjamin qui ont été déportés en Babylonie à cause de leur iniquité, dont le comble est traduit dans le dernier chapitre de 2 Chroniques. Durant cette déportation de 70 ans qui avait été annoncée par le prophète, nous voyons que ce peuple a été privé du son de la louange. En Babylonie, sur une terre étrangère et idolâtre, les harpes ont été suspendues au sol. Les harpes sont silencieuses. Car comment chanterions-nous, dit ce peuple, qui maintenant remonte de la captivité, se souvenant des conditions qu'il a vécues, qu'il a subies durant ces 70 années gouvernementales de Dieu, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ce qui nous montre que la louange rendue ne peut être exprimée dans n'importe quelle condition. Conditions qui sont à la charge de ceux qui ne peuvent plus faire vibrer la harpe. Car nous le comprenons bien, la présence de ces deux tribus parmi les Babyloniens, aussi bien que celle des 10 tribus parmi les Assyriens, est une disposition gouvernementale de Dieu. Ils subissent les conséquences de leurs inconséquences. Et réalisant ce gouvernement de Dieu, ils sont contraints à suspendre les harpes au sol. Et bien qu'on leur demande des cantiques de Sion, ils peuvent dire comment le ferions-nous dans de telles conditions. Ils se souviennent dans un chemin de retour, où la grâce divine leur accorde de retrouver le chemin de Jérusalem, ils se souviennent de ce qu'était le partage. Leur partage sous les voies gouvernementales de Dieu. En quelque sorte, le souvenir des choses vécues subsiste, comme en témoigne la fête des tabernacles, qui est pourtant une fête qui est marquée par une joie complète, mais ces tabernacles sont le rappel des conditions dans lesquelles le peuple a cheminé sous les tentes. Donc l'arbre ne vibre pas n'importe comment et n'importe où, dans n'importe quelle condition. Et dans ces deux oracles à l'égard de Tyr, les deux chapitres de Ésaïe et d'Ézéchiel, nous avons également la mention des harpes silencieuses. Dans le chapitre 24 d'Ésaïe, sans entrer dans la structure de ces chapitres, nous avons le pays de Tyr. En quelque sorte, c'est l'ensemble d'un peuple devenu apostat et qui est dévasté par les voies disciplinaires gouvernementales du Seigneur. Mais nous pourrons constater que lorsque le résidu surgit dans ce chapitre 24 et que le retour par la repentance est produit, alors la harpe vibre de nouveau au début du chapitre 25 où nous avons les chants de joie, la louange, l'exaltation d'un peuple qui a pris connaissance de l'intervention de la grâce divine. S'il s'agit du pays tout entier dans ce chapitre 24 d'Ésaïe, dans le livre d'Ézéchiel, nous avons alors à l'égard de Tyr également cet oracle qui a le roi de Tyr pour objet et qui est une figure de la puissance ennemie. Mais nous ne voulons pas rester sur ce thème simplement pour citer qu'il y a des conditions dans lesquelles la joie de la louange ne retentit pas. La joie ne peut pas être manifestée et la louange ne peut pas être exprimée. Il en sera de même lorsque l'Église apostate sera l'objet du jugement sans appel et définitif dont le chapitre 18 de l'Apocalypse fait mention et nous entretient avec beaucoup de détails, plein d'instructions et revêtu d'une solennité particulière. Nous voyons qu'à l'égard de cette Église apostate qui rejette Christ et les dieux, la harpe ne retentit pas non plus. C'est ce que nous lisons au verset 22 du chapitre 18. Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et des joueurs de hautbois et de ceux qui sonnent de la trompette ne sera plus oui en toi. Encore une scène de jugement à l'égard de l'Église professante sans vie. Et cela dans un temps futur, c'est la période apocalyptique, après l'enlèvement des saints, où la harpe est silencieuse. Mais ce qui est digne de toucher mon cœur, c'est d'entendre la harpe vibrer dans la souffrance. Car si le jugement de Dieu, si la sentence, si le gouvernement conduit à suspendre les harpes sourdes et à les réduire au silence, néanmoins alors, dans la souffrance, les fidèles ont le privilège de la faire vibrer. Et nous en avons une manifestation bien connue, mais bien parlante pour nos cœurs, en ce qui concerne David, le joueur de harpe. Dans le livre de Samuel au chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, au verset 14 du chapitre 16, « Et l'Esprit de l'Éternel se retira d'avec Saül. » Et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le troublait. Et les serviteurs de Saül lui dirent, « Tu vois qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu le trouble. Que notre Seigneur veuille parler. Les serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe. Et il arrivera que quand le mauvais esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu t'en trouveras bien. » Et Saül le dit à ses serviteurs, « Je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer, et amenez-le-moi. » Et l'un des jeunes hommes répondit-il, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethlehemite, qui sait jouer, un fort et vaillant, un homme de guerre, qui a l'intelligence des choses, et un bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Au chapitre 19, au verset 8. « Et il y eut de nouveau la guerre, et David entra en campagne et combattit contre les Philistins et les frappa d'un grand coup. Elles s'enfuirent devant lui. Et le mauvais esprit envoyé de l'Éternel vint sur Saül, et il était assis dans sa maison, sa lance à la main. Et David jouait de l'harpe. Et Saül chercha à frapper de sa lance David et la paroi. Et il se détourna de devant Saül, qui de sa lance frappa la paroi. Et David s'enfuit et échappa cette nuit. Le règne de Saül prend fin. L'esprit de Dieu se retire. Il est animé d'un esprit envoyé par Dieu qui le tourmente. Mais ce qui nous occupe, c'est bien sûr celui qui est l'objet du choix divin. le roi selon le cœur de Dieu, dont les vertus et les qualités vous sont décrites d'une manière particulière. Sa beauté est évoquée. C'était un homme qui était beau de visage, que nous avons au verset 12. Il avait de beaux yeux et il était beau de visage. Cette beauté selon Dieu, une beauté naturelle sans doute, mais la beauté morale et spirituelle de cet homme accompagnait la beauté physique. Un homme qui était beau. Un homme en qui l'Esprit de Dieu agissait, contrairement à Saül. Ce n'était pas le Saint-Esprit habitant en lui, comme c'est le cas maintenant, des rachetés du Seigneur, qui, dès la Pentecôte, sont au bénéfice de la présence de cet hôte divin, nos corps étant le temple du Saint-Esprit. Mais la puissance de l'Esprit agissant par les canaux de son choix, comme ce fut le cas de Josué et de tant d'autres, l'Esprit agissait en la vie puissamment. C'était un homme fort et vaillant, un homme qui avait vaincu l'ennemi, un homme qui s'est approché, non pas avec les ressources de la chair et de l'homme naturel, mais avec la foi et avec ce qui manifeste précisément la faiblesse, les saints pierres du torrent, pour, avec une seule d'entre elles, vaincre un Goliath. C'est un homme fort et vaillant. C'est un homme de guerre qui remporte des victoires. C'est un homme intelligent, un homme qui a la perception des pensées de Dieu, tout en étant animé du désir de s'y soumettre, de s'y conformer. Un homme qui a vraiment l'intelligence. Ce n'est pas seulement l'intelligence naturelle qui est un don du Créateur, mais qui à elle seule ne saurait être utile dans les choses de Dieu, car nous savons bien que la parole nous déclare que les choses divines sont cachées aux sages et aux intelligents, révélées aux petits-enfants, mais c'est une intelligence soumise à l'action de l'Esprit et soumise à la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle la pure intelligence qu'il se plaît à réveiller chez les croyants. Donc il réveille en nous la pure intelligence, une intelligence purifiée et soumise à l'action de l'Esprit et de la parole. L'apôtre pourra dire, je parle à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. Donc nous ne saurions dire que l'intelligence est inutile, elle l'est, si ce n'est qu'une intelligence naturelle. Et il nous est dit que l'Éternel était en lui, c'est bien sûr la qualité la plus excellente à l'égard de ce roi David. Et de surcroît, c'est un homme qui sait bien jouer. Un homme qui sait faire vibrer l'harpe, un homme qui sait bien jouer. Cherchez-moi un tel homme, et on porte son choix sur celui qui est connu comme sachant bien faire vibrer l'harpe. Quelle référence si nous pensons à la louange. Et s'il est un homme qui est un homme de louange, dont les dispositions de cœur ont été marquées par une telle activité, c'est bien David. Les psaumes si nombreux qu'il a composés et qui nous sont conservés traduisent cette disposition à la louange. Du reste, c'est le roi, cet homme, qui est appelé homme de Dieu trois fois. Et trois fois, une fois dans les chroniques et deux fois dans le livre de Néhémie, il est appelé homme de Dieu. Mais les trois fois qu'il est appelé homme de Dieu, c'est en rapport avec une activité pour disposer le peuple à la louange. Son caractère d'homme de Dieu est avant tout un homme d'adoration, un homme de louange. Il n'est pas le seul à porter ce titre d'homme de Dieu. Nous savons bien qu'Élisée, d'une manière particulière, l'a porté plus de 20 fois. Il est cité plus de 20 fois homme de Dieu. Moïse, sauf erreur, 6 fois. Dans le Nouveau Testament, nous avons un homme de Dieu nommé comme tel et choisi de remarque. C'est un jeune serviteur. Mets-toi, ô homme de Dieu, pourra dire Paul en s'adressant à son enfant bien-aimé, Timothée, il le qualifie d'homme de Dieu. David, il n'est pas soumis, il n'est pas exempt des écueils, bien loin de là, mais c'est un homme qui fait son profit des pensées du Dieu auquel il appartient et auquel il désire conformer sa vie en accomplissant le service que sa grâce lui confie. Un homme qui n'a pas de position à défendre. Un homme qui ne défend pas autre chose que les noyés, c'est l'homme de Dieu. C'était donc un homme de Dieu, David, et il savait faire vibrer l'harpe. Il va donc se trouver devant Saül, comme auparavant. Nous voyons entre Saül et David des dispositions tout à fait contraires. Chez Saül, en qui l'Esprit de Dieu ne peut plus agir, chez Saül, nous avons l'inconstance. Un jour, il a une appréciation favorable de David, le lendemain, il cherche à faire mourir. Alors que chez David, nous avons la constance. Nous l'avons lu, plus exactement, nous citons au verset précédent de ce que nous avons lu dans le chapitre 19. Il est dit qu'il se trouvait devant Saül comme auparavant. Mais voilà un homme, donc, qui va être devant Saül pour faire vibrer l'arbre de la branche. Un homme persécuté. Un homme sur qui Saül cherche à porter la main pour le mettre à mort. Face aux dangers, face aux épreuves, face aux exercices variés, il est beau de voir que l'arbre vibre. Si le gouvernement et le jugement a rendu la harpe silencieuse dans le psaume 137, comme dans les passages des prophètes que nous avons lus, tel n'est pas le cas dans l'épreuve, dans les exercices profonds vécus par le croyant attaché à son Dieu et qui trouve le réconfort par excellence en élevant son âme dans la louange. Nous voyons donc la harpe vibrer devant Saül. Saül porte la lance. David porte la harpe. Et ceci est bien significatif quant à l'état d'âme de ces deux hommes. Mais dans le chapitre 19e, nous avons vu que ce qui éveille la haine de ce Saül, ce sont les victoires remportées par David. En effet, en quelque sorte, la haine de ce monde à l'égard des croyants peut en quelque peu s'apaiser. Mais lorsque la foi remporte des victoires, alors l'ennemi se déchaîne. Et c'est bien lui et les victoires remportées par les campagnes qu'avait entrepris David contre les Philistins, et les frappant d'un grand coup, que l'esprit de haine, le mauvais esprit qu'anime Saül, se réveille. Que va-t-il faire? Face à l'homme de Dieu qui fait vibrer la harpe de la louange, il porte sa lance. Si nous avons vu dans le cas de David le mépris, voire même dans le cadre de la famille, c'est de sa femme, à l'égard de cet homme David qui ramenait l'arche d'une manière convenante, nous voyons maintenant la haine, la violence qui caractérise cet homme qui est maintenant animé d'un esprit qui rejoint celui qui sera l'esprit de l'Antichrist et qui porte la lance contre le témoin de Dieu, contre le serviteur de Dieu, contre l'homme de Dieu. Mais que nous a-t-il dit? Que David s'enfuit et échappa cette nuit-là. Nous avons été occupés quelque peu hier des types nombreux dans la parole qui nous parlent de Christ. Mais l'Écriture nous a démontré que les types les plus remarquables, les plus complets, les plus éloquents sont toujours en dessous de la réalisation du type de Christ lui-même. Toujours en dessous. Aucun n'atteint la pleine mesure. Car il faut qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Il faut que le Seigneur soit l'incomparable, car c'est lui qui est plus beau que les fils des hommes. Mais dans le passage que nous citons, nous voyons que David, type de Christ, persécuté, pourchassé, et s'il est un homme porteur de la harpe, c'est bien Christ. Nous voyons qu'il échappa et qu'il s'enfuit. Il échappa cette nuit-là. Le Seigneur s'est-il enfui? Le Seigneur a-t-il échappé cette nuit-là? La lance a été portée contre lui. Il a suivi les assauts et de l'ennemi et de l'homme. Les assauts de l'ennemi qu'il avait laissés pour un peu de temps dans le jardin de Gethsémané, les assauts de l'homme qui a manifesté sa haine brutale et qui n'a rien épargné à celui devant lequel, avec une insolence sans pareille, l'homme s'est incliné pour se moquer de lui et lui a craché au visage. rien n'est épargné. Il n'a pas échappé non plus cette nuit-là où le Seigneur a connu dans les trois heures ténébreuses de l'expiation le saint courroux de Dieu contre le péché. Il n'a pas épargné son propre fils. Il échappa, il s'enfuit et échappa cette nuit-là. Type de Christ d'une manière remarquable qui fait vibrer la harpe de la louange dans des scènes où tout est contraire, mais où il réalise cette communion avec son Dieu, cette confiance et cette dépendance. Mais la mesure de la distance est complète. David échappe, il s'enfuit. Le Seigneur s'avancera pour se présenter comme celui qui est cherché. La harpe de la louange vibrera dans la prison de Paul et de Silas. Lorsque ces deux serviteurs, attendant leur comparution et leur condamnation au lendemain, chantent des cantiques sur la minuit. Deux hommes enchaînés, deux serviteurs confiants pleinement dans le Seigneur, dans des circonstances les plus difficiles. Mais que nous est-il dit de ces deux serviteurs, de ces hommes de Dieu, Paul et Silas, sur la minuit, chantaient des cantiques dans la prison? La mise à l'épreuve de la foi ne prend pas la harpe silencieuse. Mais bien sûr que l'exemple parfait, nous le trouvons dans le Seigneur. Et si nous lisons ce passage connu de Matthieu 11, nous voyons le Seigneur qui prend acte de sa réjection, de la part de son peuple vers lequel il s'est avancé. Il prend acte de cette maison d'Israël qui ferme sa porte au Messie et au roi. Que va faire le Seigneur? Il élève son âme et sa voix à l'adresse de son Père. Et que peut-il dire dans ce passage si frappant? Je te loue, ô Père. Seigneur des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux petits enfants. Dans le moment de la réjection de la part de son peuple, le Seigneur élève son regard vers son Père en louange. Si la harpe a vibré dans la prison de Paul et de Silas, la harpe vibre dans le cœur divin du Seigneur qui s'adresse en louange au moment où sa réjection est décrétée de la part de son peuple. Nous pourrions multiplier les exemples où la harpe vibre dans des scènes contraires. Nous pensons bien sûr à Élisée dans le deuxième livre des rois, lorsqu'il voit venir à lui trois rois qui, contrairement à la pensée de Dieu, s'étaient mis d'accord pour livrer combat le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, qui s'approchent à bout de ressources vers le prophète Élisée, dont Josaphat, bien qu'il ne fût pas à sa place, se souvient même de la présence de ce prophète. Devant ces trois rois, Élisée ne tiendra aucun compte du roi d'Édom. Quant au roi d'Israël, il le renvoie au faux Dieu et au faux prophète. Mais dans sa grâce, il tient compte de cet égarement de Josaphat et peut dire, si ce n'était à cause de Josaphat, je ne t'écouterai pas. Mais que dit Élisée? Amenez-moi un joueur. Dans l'esprit troublé de cet homme de Dieu, Élisée, confronté à la confusion dans laquelle se trouve son peuple associé avec les Édomites, il faut qu'il s'élève dans la louange et trouver dans cette communion avec son Dieu la ressource nécessaire pour répondre à une telle circonstance. Amenez-moi un joueur de l'arbre. Nous terminons par l'évocation de trois scènes où les harpes sont présentes dans l'Apocalypse. Au chapitre 14. Chapitre 14 de l'Apocalypse. Et je vis, et voici, l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 milliers, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et jouis une voix venant du ciel, comme une voix de grande sceaux et comme une voix de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique sinon les 144 milliers, qui ont été achetés de la terre, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ceux-ci ont été achetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Nous savons qu'après l'économie présente et après l'enlèvement des saints à la vue du Seigneur, une période certainement courte se déroulera avant l'établissement du règne millénaire. Durant cette période dite apocalyptique, les jugements décrits dans l'Apocalypse trouveront leur réalisation, tous ceux qui précèdent l'établissement du règne. Mais pendant cette même période, des proclamateurs de l'évangile du royaume, ayant le royaume terrestre en vue, annonceront cet évangile du royaume, et beaucoup d'âmes, celles qui n'ont pas refusé l'évangile de la grâce, pour qu'il n'y aura plus de salut possible, seront atteintes dans leur conscience et dans leur cœur par la proclamation de l'évangile du royaume, et constitueront un résidu, combien précieux au cœur du Seigneur, destiné à jouir des bénédictions millénaires. Cette période, nous le savons également, est constituée ou divisée en deux parties. Il s'agit de la 70e semaine de Daniel, la première demi-semaine et la deuxième demi-semaine, la deuxième demi-semaine ayant une durée bien précise, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Les trois expressions que nous avons quant à la durée de cette deuxième partie de cette période de jugement durant laquelle se déroulera la grande tribulation. Ces croyants qui seront d'une fidélité exemplaire subiront pour une part le martyre et seront mis à mort avant qu'arrive le jour de la délivrance que ces fidèles attendront sans doute comptant les jours, puisqu'ils sont déterminés avec une précision remarquable, ils compteront les jours où le libérateur les mettra définitivement à l'abri du persécuteur, de la puissance de l'Antichrist, de la puissance de la bête romaine, de la puissance de la Syrienne, et que s'ouvrira le règne millénaire dans la bénédiction duquel ceux qui survivront seront introduits. Ce sont de ceux-là desquels il est fait partie à l'ouverture de ce chapitre 14, et plus particulièrement le résidu de Judas, car il y aura d'une part le résidu de Judas et d'autre part le résidu des nations d'Israël. Ces 144 000 sont bien sûr un chiffre symbolique et qui traduit un chiffre complet, qui n'est pas à comparer avec les 144 000 du chapitre 7. Mais c'est un chiffre complet, et nous les voyons sur la terre. Et ce qui caractérise ces fidèles de cette période où chaque pas de fidélité mettra leur vie en péril, car ce sont eux qui n'ont pas répondu aux exigences et aux ordonnances promulguées par la bête, et qui n'auront pas fléchi devant son nom, et par cela qui s'exposeront à la mort tous les jours, ces fidèles pour lesquels la vie sera devenue pratiquement impossible, on pourra ni acheter ni vendre, mais nous voyons qu'il est donné à leur endroit un certificat de fidélité qui dépasse ce que nous avons dans les autres économies. L'attachement, la fidélité, la sainteté pratique leur est imputée et la conclusion en quelque sorte de toutes ces vertus de ce résidu nous est exprimé dans la dernière parole de ce verset 5, ils sont irréprochables. Nous ne trouvons pas une qualification semblable dans d'autres économies. Irréprochables. Nous sommes par la grâce de Dieu rendus irréprochables quant à notre position en Christ. Mais ici, il ne s'agit pas de la position, il s'agit de leur état pratique, de leur marche. Ils ont mis les droits divins, leur attachement à Christ, le désir de la fidélité dans la sainteté devant leur vie, quoi qu'il en coûte. Et nous savons que beaucoup perdront la vie et ils sont comptés au nombre des bienheureux, ce sont les derniers à l'égard desquels il est dit bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car à partir de cette époque-là, aucun mort ne mourra dans le Seigneur. Les derniers qui meurent dans le Seigneur sont ceux de cette période apocalyptique. Ils sont constitués par deux catégories distinctes, nous savons bien, ceux de la première demi-semaine, mentionnés dans chapitre 6, dont les âmes sont vues sous l'autel, réclamant vengeance et disant jusque à quand au souverain ne vengera t pas. Nous comprenons bien que ce n'est pas une condition chrétienne de l'économie présente, car la vengeance n'est pas un caractère chrétien. Mais nous revenons dans un caractère juif. Jusque à quand ne vengera t pas. Et il leur a dit qu'ils doivent attendre encore un peu de temps jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage les aient rejoints, ce sont ceux de la deuxième demi-semaine. Ici, il s'agit donc du résidu de Juda, et ils sont vus sur la terre, cheminant dans la souffrance. Et qu'entendaient-ils? Ils entendent une voix venant du ciel, comme une voix de grandes eaux, comme une voix d'un grand tonnerre. Et cette voix est comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau. Qui chante ce cantique nouveau? Est-ce que ce sont les saints de la période actuelle, l'Église glorifiée? Nous pensons bien que ce ne sont pas ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit d'eux qu'ils chantent devant le trône, au verset 3, et devant les quatre animaux et les anciens. Or, les anciens sont donc constitués, les 24 anciens, par 2 fois 12, qui nous parle des anciens de l'Ancien Testament, les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Mais ici, il n'est pas dit qu'ils chantent avec les anciens, ils chantent devant les anciens. Donc, c'est une autre catégorie de saints glorifiés, et ce sont sans doute ces saints de la période apocalyptique qui ont connu le martyr, qui sont morts pendant cette grande tribulation et ces jugements sans pareil qui se dérouleront sur la terre et qui appartiennent à la première résurrection selon ce que nous lisons l'Apocalypse 20 au verset 4 qui nous parle des différentes catégories de saints qui constituent la première résurrection dont Christ est les prémices. Puis nous les vivants, tous ceux qui sont du Christ à sa venue, et ensuite les saints de cette période apocalyptique qui n'appartiennent pas à l'Église bien sûr, mais qui, étant ressuscités, puisqu'ils ont perdu la vie par leur fidélité, sont adjoints à cette première résurrection, en font partie, et se trouvent maintenant glorifiés dans le ciel. Car nous savons bien, ils seront ressuscités, faisant partie de la première résurrection, avant l'établissement du règne. Et ces saints glorifiés sont dans le ciel, et que font-ils? Ils jouent de la harpe. Ils chantent les accents d'un cantique nouveau. Mais si nous lisons la note, nous voyons comme un cantique nouveau. C'est un cantique qui a le même thème. Ils chantent comme un cantique nouveau, qui a le même thème que celui que chanteront les saints glorifiés de l'économie présente, des saints de l'économie de la grâce. Mais c'est un cantique ressemblant, disons. Ils appartiennent à une autre catégorie de saints introduits dans la gloire avant l'établissement du règne et faisant partie de la première résurrection et faisant partie de cette catégorie des saints de la période apocalyptique. Et nous voyons en quelque sorte une liaison spirituelle entre ces saints glorifiés dans le ciel et ceux qui marchent sur la terre, peinant encore sous l'oppression et sous les assauts de l'ennemi qui va livrer, qui va se déchaîner contre ce résidu fidèle, mais duquel le Seigneur prendra soin. Et nous voyons ces 144 milliers marchant d'une manière pratiquement irréprochable, qui en quelque sorte sont réconfortés, si l'on peut dire, à l'ouïe de cette voix venant du ciel, et qui entendent leurs compagnons d'esclavage chantant comme un cantique. Les harpes vibrent dans le ciel. Nous devons mettre un terme, mais nous citons le chapitre 15, où nous avons une deuxième catégorie. Au chapitre 15, au verset 2, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, et sur son image, et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et véritable sont tes voies, ô roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes faits justes ont été manifestés. Nous avons ici un autre aspect du résidu de la même période, le résidu d'Israël et des nations. Et nous le voyons également introduit dans le ciel, quant à la part de ceux qui ont perdu la vie, mais aussi donc bien, parce qu'il y a tous ceux qui resteront en vie, qui subsisteront jusqu'à la fin de cette période de jugement sur la terre, et dont le partage sera d'être introduit dans la jouissance des bénédictions millénaires, du règne du Seigneur sur la terre habitée tout entière, qui est la réponse de Dieu au règne du royaume des cieux qui m'a été refusé comme Messie à l'égard d'Israël. C'est la réponse de Dieu. Car le Seigneur n'a jamais renoncé à son titre de roi, il n'a jamais renoncé à son droit au royaume, il l'a confirmé devant Ponce Pilate, et si le règne n'a pas été établi comme Messie sur la terre, s'il a été rejeté et crucifié, le règne s'établira d'une manière combien plus glorieuse et dans une expansion beaucoup plus grande, qui ne sera pas limitée à Israël, mais qui sera universelle. Et c'est la réponse de Dieu, une des réponses de Dieu à l'outrage dont le Seigneur a été l'objet, notamment de la part de son peuple terrestre. Mais dans ceux qui ont perdu la vie et qui ne jouiront pas des bénédictions terrestres du royaume, il y a alors cette récompense particulière qui est liée à leur fidélité. Ils n'ont pas aimé leur vie et ils l'ont perdue par amour pour Christ. Et cette récompense fait qu'ils sont introduits comme constituant ces conquis aux noces, cette partie céleste du royaume. Et nous les voyons ici en rapport avec une mer de verre mêlée de feu. La mer de verre est déjà citée au chapitre 4 de l'Apocalypse, mais il n'y a pas de feu. Ici, pourquoi est-ce qu'il y a une mer de verre mêlée de feu? Parce qu'il s'agit précisément de 5 ans qui ont connu l'ardeur du feu du jugement sur la terre et qui ont connu les souffrances indicibles qui les ont conduites jusqu'à la mort. Par fidélité. Mais c'est un état maintenant qui a pris fin dans son activité, tout est stabilisé, c'est une mer de verre mêlée de feu. Ce n'est plus la cuve des reins dans laquelle on se lave pour être purifié pratiquement, c'est une mer, tout est stabilisé, c'est un état définitif. Mais qui rappelle ce par quoi ils ont passé, le feu de l'épreuve. Et nous les voyons ici, ceux qui ont porté, remporté une victoire sur la bête, et sur son image, qui n'ont pas fléchi devant cette incitation à s'incliner devant la bête romaine que l'Antichrist va établir et porter même dans le temple de l'Éternel, mais devant laquelle un pouvoir particulier satanique lui sera donné, le pouvoir même de la respiration et de parler, mais ces hommes se sont démontrés fidèles, ils n'ont pas fléchi devant ces tentations de l'ennemi, et sont maintenant vus, ayant perdu la vie par fidélité, introduits dans la gloire. Ils chantent également un cantique. Mais il est frappant de voir que le cantique qu'ils chantent, c'est le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Ce n'est plus la mention d'un cantique nouveau ou comme un cantique nouveau, c'est un autre aspect, le cantique de Moïse. Il est très frappant de voir que le premier cantique chanté dans l'Écriture, c'est le cantique de Moïse, c'est Exode 15. Le cantique de la délivrance de l'oppression de l'ennemi. Exode 15. Et ce cantique que nous voyons chanté à la fin des Écritures, c'est le cantique de Moïse chanté par des saints, par des martyrs glorifiés qui chantent la délivrance de l'oppression de l'ennemi. Cantique de Moïse. Et il chante aussi le cantique de l'agneau. L'agneau, c'est bien celui qui a opéré la délivrance. C'est pas Moïse ce qu'il a opéré, c'est en vertu de l'agneau. L'agneau est à l'origine de la délivrance du peuple terrestre. Nous connaissons la scène de l'agneau pascal d'Exode 12. Et il est à la délivrance, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le vrai agneau de Dieu présenté en Jean 1. C'est celui qui est l'auteur de la délivrance. Le cantique de Moïse est le cantique, qui est le cantique de la délivrance, est le cantique de l'agneau, celui qui a opéré la délivrance. Nous citons seulement en Apocalypse 5, le troisième cœur qui fait vibrer la harpe dans la gloire. Car il y a 3 cœurs qui chantent et qui font vibrer la harpe. Au verset 8, du chapitre 5. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face, disant devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà un cœur qui chante, qui fait vibrer l'arc de la louange. Ce sont aussi des saints glorifiés. Mais alors, ce sont les saints glorifiés, les 24 anciens, qui représentent les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament, l'économie de la grâce, qui tous ensemble seront ravis à la présence du Seigneur en l'air au jour de sa venue, et qui sont vus là, autour du trône de l'agneau, le contemplant comme l'auteur de la délivrance, et qui proclament la dignité de celui qui les a sauvés. C'est bien la part qui nous attend, chers amis. En tant qu'enfants de Dieu, membres du corps de Christ, appartenant à cette épouse bien-aimée, c'est de faire partie de cet ensemble céleste des 24 anciens, dont il sera fait mention jusqu'aux noces de l'agneau et non pas après, et qui entonne, faisant vibrer la harpe de la louange, ce cantique nouveau dont l'autel est le mobile et l'agneau est immolé. Si nous avons vu dans les psaumes à l'ouverture que l'Éternel est le thème de la louange, nous voyons qu'à l'aboutissement, mais qui ne prendra jamais fin, de ce qui constitue l'activité d'un peuple glorifié dans la maison du Père, autour du trône, c'est encore exalter les gloires et la dignité de l'agneau, parce qu'il a été immolé. Ces croyants ici, qui seront notre partage dans peu de temps peut-être, sont vus ici comme des adorateurs, mais aussi comme des sacrificateurs et des intercesseurs. Que le Seigneur nous accorde d'être animés de ces dispositions de louange. Combien nombreux et permanents sont les motifs qui nous conduisent à faire monter de nos cœurs ces actions de grâce, cette adoration qui lui est due, qui nous a donné de nous appuyer sur la parole, comme David s'appuyait sur l'harpe, pour en faire jaillir le son de l'adoration. Déjà sur la terre présentement, dans l'attente du jour où nous entourerons le trône et où nous contemplerons des yeux de vos corps glorifiés, en faisant monter à sa gloire les accents d'un cantique nouveau et sans fin, et cela à la gloire de l'agneau qui a été immolé.